Chapitre 9. Un complot de famille. Le pauvre docteur Walker, pendant qu'il déjeunait, était bien loin de se douter que les deux charmantes jeunes filles, assises à ses côtés, étaient en train de conspirer mystérieusement, et que lui, qui mangeait ses petits pains sans songer à mal, était la victime que visait leur ruse. Elles attendaient avec patience que le moment vînt de se mettre à l'œuvre. « Voici une belle journée, remarqua-t-il. Cela fera l'affaire de Mistress Westmacott. Elle comptait faire un tour en tricycle. Alors, il faut que nous nous hâtions d'aller la voir. Nous avions toutes deux l'intention de lui rendre visite après déjeuner. Ah, vraiment ? » Le docteur parut enchanté. Vous savez, papa, dit Ida, il nous semble qu'il est très avantageux pour nous que Mistress Westmacott demeure tout près de nous. Pourquoi cela, ma chère ? Eh bien, parce qu'elle est très avancée, vous savez. Nous n'avons qu'à étudier ses habitudes pour devenir aussi avancée qu'elle. Je crois vous avoir entendu dire, papa, fit Clara, quel est le type de la femme future. Je suis très content de vous entendre parler d'une façon aussi sensée, mes chers enfants. Je suis tout à fait convaincu que c'est une femme que vous ferez bien de prendre pour modèle. Plus vous serez en relation intime avec elle, plus j'en serai charmé. Alors, c'est entendu, dit timidement Clara. Et la conversation divergea vers d'autres sujets. Les deux jeunes filles passèrent toute la matinée à se faire exposer par Mistress Westmacott ses opinions les plus radicales sur les devoirs de l'un des sexes et sur la tyrannie de l'autre. Son idéal, c'était l'égalité absolue, jusque dans les plus petits détails. Il ne fallait plus répéter à la façon des perroquets que c'était là des idées incompatibles avec le caractère de la femme, de la jeune fille. C'était une invention de l'homme pour l'empêcher de braconner de trop près sur ses précieuses chasses gardées. Toute femme avait droit à l'indépendance. Toute femme devrait apprendre une profession. La femme avait le devoir de s'introduire de force partout où elle serait le plus mal accueillie. C'est alors qu'elle deviendrait une martyre de sa cause, qu'elle frayerait le passage à ses sœurs plus faibles. Pourquoi les femmes seraient-elles éternellement condamnées à faire le blanchissage, à manier l'aiguille, à tenir les comptes du ménage? Ne pouvaient-elles pas s'élever plus haut, jusqu'au cabinet de consultation, jusqu'au barreau, et même jusqu'à la chaire? Dans son empressement à développer sa thèse favorite, Mistress Westmacott sacrifia sa promenade en tricycle. Ses deux jolies élèves buvaient ses moindres paroles et notaient tous ses conseils pour en faire usage plus tard. Dans cet après-midi, elles allèrent à Londres faire des emplettes et, avant le soir, d'étranges colis commencèrent à arriver à la porte du docteur. Le complot était mûr pour l'exécution. L'une des complices manifestait une gaieté qui allait jusqu'à la jubilation, tandis que l'autre se montrait toute nerveuse, toute troublée. Le lendemain, lorsque le docteur descendit à la salle à manger, il fut surpris de trouver ses filles déjà levées depuis quelque temps. Ida était installée à un bout de la table, une lampe à alcool, une cornue de verre et plusieurs flacons devant elle. Le contenu de la cornue bouillait à grand bruit et remplissait la pièce d'une odeur des plus suspectes. Clara, vautrée dans un fauteuil, avait les pieds posés sur un autre fauteuil et tenait à la main un volume à couverture bleue, une immense carte des îles Britanniques déployée sur ses genoux. Hola, dit le docteur en clignotant et en reniflant. « Où est le déjeuner ?»« Eh bien, ne l'avez-vous pas commandé ?» demanda Ida. « Moi ? Non. Pourquoi l'aurais-je fait ?» Il sonna. « Jeanne, pourquoi n'avez-vous pas servi le déjeuner ?»« Pardon, monsieur, mais Ida était en train de travailler sur la table. »« Oh, naturellement, Jeanne, dit avec calme la jeune personne. J'en suis bien fâchée, mais dans quelques minutes, je serai prête à déménager. » « Mais que diable faites-vous là, Ida ?» demanda le docteur. « Cette odeur est des plus désagréables. Et puis, grand Dieu, regardez un peu la jolie besogne que vous faites sur la nappe. Tenez, vous y avez fait un grand trou avec quelques caustiques. »« Oh, ça, c'est l'acide !» répondit Ida d'un ton satisfait. « Mistress Westmacott disait que ça ferait des trous. » Vous auriez bien pu vous en rapporter à elle au lieu d'en faire l'expérience, dit le père d'un ton sec. Mais voyons, papa, voici ce qu'il y a dans le livre. L'esprit scientifique n'accepte rien sur parole. Expérimentez toute chose. J'ai expérimenté. Cela se voit bien. En attendant que le déjeuner arrive, je vais jeter un coup d'œil sur le Times. L'avez-vous parcouru ? Le Times ? Ah, mon Dieu ! C'est le Times que j'ai mis sous ma lampe à alcool. Je crains bien qu'il n'y soit tombé aussi quelque acide et qu'il ne soit mouillé et déchiré. Le voilà. Le docteur, l'air piteux, prit le journal tout sali. On dirait que tout va de travers aujourd'hui, remarqua-t-il. Ida, d'où vous vient cette soudaine passion pour la chimie ? Oh, c'est que je tâche de me mettre à la hauteur des enseignements de Mistress Westmacott. C'est parfait, voilà qui est très bien, dit-il, mais peut-être avec moins d'empressement qu'il n'en avait montré la veille. Ah, enfin, voici le déjeuner. Mais rien n'allait ce matin-là. Il y avait des œufs, les cuillers à œufs manquaient. Les rôtis, à force d'attendre, avaient pris la consistance du cuir. Les tranches de jambon étaient sèches et il y avait du marc dans le café. Et puis, c'était surtout cette odeur abominable qui s'insinuait partout et faisait faire une horrible grimace à chaque bouchée. « Je ne voudrais pas jeter une douche sur vos études, Ida, » dit le docteur en reculant sa chaise. « Mais je suis d'avis que vous feriez mieux de continuer vos expériences de chimie un peu plus tard dans la journée. » « Mais Mistress Westmacott dit que les femmes doivent se lever de bonne heure et expédier leur besogne avant le déjeuner. Dans ce cas, elle devrait choisir une autre pièce que la salle à manger. » Le docteur était déjà en train de s'énerver un peu. « Une promenade au grand air le calmerait, » pensa-t-il. « Où sont mes bottines ? » demanda-t-il. Elles n'étaient pas dans leur coin habituel, près de sa chaise. Il fouilla en haut, en bas, les trois bonnes se mirent de la partie, se baissèrent pour regarder sous les étagères de livres, sous les meubles. Ida était retournée à ses études et Clara à son volume à couverture bleue. Elle restait tranquillement assise au milieu de la confusion et du remue-ménage. À la fin, un murmure de félicitations réciproques annonça que la cuisinière avait découvert les bottines suspendues dans le vestibule parmi les chapeaux. Le docteur, très rouge, très échauffé, se chaussa et décampa brusquement pour aller faire avec l'amiral sa promenade matinale. Lorsque la porte se fut refermée à grand bruit, Ida partit d'un grand éclat de rire. « Vous voyez, Clara, s'écria-t-elle, le charme opère déjà. Il est allé au numéro 1 au lieu d'aller au numéro 3. Oh, nous remporterons une grande victoire. Vous vous êtes très bien conduite, ma chère. Je vous voyais sur les épines, tant vous aviez envie de l'aider quand il cherchait ses bottines. » Pauvre papa, comme c'est cruel. Et pourtant, que pouvons-nous faire ? Oh, il n'en goûtera que mieux ses aises quand nous lui aurons causé quelques petits désagréments. Quelle horrible chose que cette chimie ! Regardez ma blouse, elle est abîmée. Et cette odeur terrible ! Elle ouvrit la fenêtre à deux battants et y mit sa petite tête aux boucles dorées. Charles Westmacott était de l'autre côté de la haie, occupé à bêcher. « Bonjour, monsieur, » dit Ida. « Bonjour. » Et l'Hercule, s'appuyant sur sa bêche, leva les yeux pour la regarder. « Avez-vous des cigarettes, Charles ?»« Oui, pour sûr. »« Jetez-moi en deux. »« Voici mon porte-cigarette. Tâchez de l'attraper. » Une boîte en peau de phoque vint tomber avec un petit bruit sourd sur le parquet. Ida l'ouvrit. La boîte était pleine. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. « Du tabac égyptien. »« Quelles sont les autres marques ? » ?»« Oh, il y a les Gemmes de Richmond, le Turc, le Cambridge. Mais pourquoi ? » ?»« Ne vous en inquiétez pas. » Elle lui fit un signe de la tête et referma la fenêtre. « Il faut retenir tout cela, Clara, dit-elle, et apprendre à en parler. Mistress Westmacott connaît tous les genres de cigarettes. Avez-vous fait venir votre rhum ? » ?»« Oui, ma chère, le voici. » »« Et moi, je m'en soute. Venez dans ma chambre à présent, cette odeur est trop abominable. Mais il faut que nous soyons prêtes à le recevoir quand il rentrera. En nous tenant près de la fenêtre, nous le verrons arriver par la route qui descend. » La fraîcheur du matin et la conversation pleine d'entrain de l'amiral avaient fait oublier au docteur tous ses ennuis, et il revint vers midi, parfaitement de bonne humeur. Dès qu'il ouvrit la porte du vestibule, l'odeur atroce des produits chimiques qui lui avaient gâté son déjeuner le reprit avec une nouvelle virulence. Il ouvrit la fenêtre toute grande, entra dans la salle à manger et resta immobile d'ébahissement devant le spectacle qui s'offrait à lui. Ida était de nouveau installée devant ses fioles, une cigarette allumée à la main gauche et ayant près d'elle, sur la table, un verre de stout. Clara, avec une autre cigarette, était allongée sur le fauteuil, au milieu d'un grand nombre de cartes étalées sur le parquet, les pieds sur le seau à charbon et un petit verre d'un liquide rouge-brun posé près d'elle sur la table du fumoir. Le docteur promena les yeux de l'une à l'autre à travers le léger brouillard de fumée grise, mais à la fin, son regard ébahi se fixa sur sa fille aînée, la plus sérieuse. « Clara, dit-il d'une voix haletante, je ne l'aurais jamais cru. « Quoi donc, papa ? Vous êtes en train de fumer. « Je m'y essaie, papa. Je trouve ça un peu difficile, car je n'y ai pas été habituée. « Mais pourquoi, je vous le demande, pourquoi ?»« Mistress Westmacott le recommande. « Oh, une dame d'âge mûr peut faire bien des choses que doit s'interdire une jeune fille. » « Oh non !» s'écria Ida. « Mistress Westmacott dit qu'il doit y avoir une seule loi pour tout le monde. Prenez une cigarette, papa. »« Non, merci. Je ne fume jamais le matin. »« Ah, peut-être est-ce la marque qui ne vous plaît pas. Quelle est cette marque, Clara ?»«
Des Égyptiennes. »«
Ah, il faudra vous procurer des gemmes de Richmond ou des Turcs. » « Papa, je vous en prie, quand vous irez à la ville, rapportez-moi des Turcs. »«
Jamais de la vie. Je trouve que ce n'est pas du tout une habitude convenable pour de jeunes personnes. Sur ce point-là, je ne suis point du même avis que Mistress Westmacott. »«
Vraiment, papa, c'est vous qui nous avez conseillé de prendre modèle sur elle. »«
Mais avec discrétion. Qu'est-ce que vous buvez là, Clara ?»«
C'est du rhum, papa. »«
Du rhum ? Et le matin ?»
Il s'assit et se frotta les yeux en homme qui s'efforce de dissiper un mauvais rêve.
« Du rhum, avez-vous dit ?»«
Oui, papa. Tout le monde boit du rhum dans la profession que je compte embrasser. »«
La profession, Clara ?»«
Mistress Westmacott dit que toute femme doit exercer une profession et que nous devons choisir celle que les femmes ont toujours évitée. »«
C'est tout à fait ça. »
« Eh bien, je suis en train de me conformer à ses conseils. Je veux me faire pilote. »«
Ma chère Clara, pilote ? Voilà qui est trop fort. »«
Voici un bien beau livre, papa. Les phares, signaux, bouées, canaux et points de reconnaissance de la Grande-Bretagne. Et cet autre, le manuel du maître marinier. Vous ne sauriez vous imaginer combien c'est intéressant. »«
Vous voulez rire, Clara. C'est une plaisanterie. »
« Pas du tout, papa. Vous ne vous doutez pas combien j'ai déjà appris de choses. Il faut que je mette un feu vert à bâbord, un feu rouge à tribord, avec un feu blanc au sommet du mât et une occultation toutes les 15 minutes. »«
Oh, ça doit être bien joli, la nuit. » »«
Et puis, je connais les signaux de brouillard. Une sonnerie signifie qu'un vaisseau cingle à bâbord. Deux sonneries qu'il arrive à tribord. Trois qu'il est par l'avant. » Et quatre, qui n'obéit pas à la barre. Mais cet homme pose de si terribles questions à la fin du chapitre. Écoutez-moi cela. Vous voyez un feu rouge. Le navire est à bâbord et le vent au nord. Dites à un point près la direction du navire. Le docteur se leva en faisant un geste de désespoir.
Je ne comprends rien à ce qui vous a pris toutes les deux.
« Mon cher papa, nous faisons de notre mieux pour nous rapprocher de l'idéal de Mistress Westmacott. »«
Eh bien, je puis vous dire que je n'admire point le résultat. Vous, Ida, votre chimie peut bien ne pas tourner trop mal, mais vous, Clara, il ne saurait être question de votre projet. Qu'une jeune fille, ayant autant de bon sens que vous, ait pu se mettre une idée pareille dans la tête, voilà qui dépasse mon imagination. Mais il faut que je vous défende formellement d'aller plus loin. »
« Mais papa, dit Ida,
d'un air innocemment interrogateur dans ses grands yeux bleus. « Que ferons-nous si vos ordres et les conseils de maîtrise Westmacott sont opposés ? Vous nous avez dit de lui obéir. Elle dit que quand les femmes font un effort pour se débarrasser de leurs entraves, leurs pères, leurs frères, leurs maris sont les premiers à les leur imposer et qu'en ces choses-là, les hommes n'ont aucune autorité. Est-ce que maîtrise Westmacott vous enseigne que je ne suis pas le maître dans ma propre maison ?» Le docteur rougissait. La colère faisait se hérisser sa chevelure grise. Certainement, elle dit que les maîtres de la maison sont autant de vestiges des siècles d'ignorance. Le docteur marmotta quelques mots et frappa du pied sur le tapis. Sans plus ajouter un mot, il alla au jardin où ses filles purent le voir aller et venir, l'air furieux, abattant les fleurs avec une baguette. Oh, ma chérie, s'écria Ida, vous avez joué votre rôle à la perfection. Mais comme c'est cruel! Quand j'ai vu dans ses yeux combien il souffrait, j'ai été sur le point de me jeter à son cou et de lui tout avouer. Ne trouvez-vous pas que nous sommes allés assez loin ? Non, non, il s'en faut de beaucoup. N'allons pas faiblir en ce moment, Clara. C'est bien drôle que j'aie à vous diriger, moi. C'est un événement tout à fait nouveau. Mais je sais que j'ai raison. Si nous continuons comme nous avons commencé, nous pourrons nous dire pendant toute notre vie que nous l'avons sauvé. Et si nous ne le pouvons pas, ô Clara, nous ne nous le pardonnerons jamais.